bonsoir, bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous êtes à l'écoute de l'émission Et si on s'écoutait ? Nous sommes le mercredi 25 février 2026. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée en studio de Marion Milsan. Bonsoir.
Bonsoir.
Et de Sidi à la régie. Bonsoir,
bonsoir.
Sidi.
Bonsoir.
Le micro vient d'attendre.
Bah alors Sidi.
L'émission est diffusée ce soir sur les ondes et le podcast, lui, sera disponible dans quelques jours sur le site de Radio Galère. Dans cette émission, vous le savez, nous recevons habituellement des acteurs et actrices de la ville de Marseille qui œuvrent pour l'écoute, le dialogue et le bien-vivre ensemble, artistes, structures culturelles, associations, collectifs, citoyens ou sportifs. Et ce soir, nous allons parler d'un lieu qui nourrit à Marseille, au sens propre, comme au sens figuré, vous allez le voir. Nous recevons avec grand plaisir la cuisine de l'Arc qui a ouvert début 2025, portée par l'association Le Bouillon de Noailles. La cuisine de l'Arc, c'est deux choses. C'est un tiers-lieu social et culinaire solidaire et aussi un restaurant coopératif et d'insertion, le Midi. Le Bouillon de Noailles gère trois cuisines sociales, le Petit Bouillon, l'espace des enfants autonomes et la cuisine du 101. Pour en parler, on reçoit Lilane Criscu. Kuolo.
Bonsoir.
Coordinatrice du tiers-lieu et Chloé Chédry, la directrice du restaurant coopératif.
Bonsoir.
Bonsoir les filles. Alors à l'origine, vous allez nous en parler mieux, mais pour le présenter un petit peu aux auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas encore la cuisine de l'Arc, c'est un projet qui est né d'une envie de combiner un petit peu l'esprit du bouillon parisien et l'âme du bouchon lyonnais, comme vous nous l'avez expliqué en préparant l'émission. Mais très vite, la cuisine de l'Arc est devenue bien plus qu'un restaurant, on va le découvrir avec vous. Au cœur de la cuisine de l'Arc, il y a une conviction forte. La cuisine est un langage universel, un outil d'émancipation et surtout un espace d'écoute. Écoute des habitants, écoute des parcours, écoute des besoins du quartier. Un lieu qui appartient à celles et ceux qui le font vivre, les coopérateurs, on va le voir, les habitants bien sûr, les habitantes de Noailles. Ce quartier dont on va parler aussi, bouillonnant, les bénévoles, les salariés et aussi les enfants. Alors peut-être que vous pouvez... peut-être nous dire déjà comment vous allez sur l'antenne.
Ça va bien, je crois qu'on est content d'être là avec vous, merci beaucoup.
Et ça tombe bien parce qu'on commence l'émission généralement en demandant à nos invités de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'écoute pour vous ? Donc Chloé et Lilane, qui veut répondre en premier ?
Bah écoute, moi je peux prendre la parole. Moi je dirais que l'écoute c'est... un peu une manière de fonctionner, de faire de la place à l'autre et de poser plutôt que toujours être dans l'action. Voilà.
Moi, je dirais que l'écoute, c'est une posture. C'est de prendre le temps d'être attentif à ce qui se passe autour de nous, aux personnes autour de nous et de se décentrer un petit peu.
Merci.
Merci pour ces partages qui complètent à chaque fois les émissions précédentes avec les invités qui ont un autre regard aussi sur cette écoute, l'écoute de soi, l'écoute des autres. Et,
oui, Marion. Comment ça va, Chloé ? En fait, on ne s'est pas demandé.
C'est vrai, on a l'idée de le perdre. Écoute, je vais bien, un peu fatiguée, mais je vais très bien. Ouais, je crois que ça va. Et toi ?
Moi ça va aussi. Ce soir j'ai envie d'être, tu sais, je suis tout smooth, tout doux là. Et ce soir je crois que je vais prendre un bain et dormir. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et Sidi, comment ça va?
Moi ça va, la pêche.
La pêche, aïe aïe aïe.
Malgré qu'il y a le ramadan, mais ça va.
Oui, t'as fait le tour là, ça y est. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup à Sidi qui quand même gère la régie depuis 3 ans maintenant, depuis qu'on fait cette émission. Ouais. Donc merci.
C'est un très équipe, c'est vrai.
Il nous fait, on va apprendre la régie, un de ces quatre. Alors les filles, avant de commencer donc l'émission aussi, Chloé a un petit peu présenté donc ce que vous allez nous présenter, c'est-à-dire le Bouillon de Noailles et la cuisine de l'Arc. Mais avant ça, on aimerait aussi savoir qui est-ce que vous êtes. Voilà, qui êtes-vous derrière ces micros-là, Chloé, Lilane, quels sont vos parcours et qu'est-ce qui vous a amené en tant que personne, à être ici devant nous et à travailler pour ces projets-là.
Lilane,
tu veux commencer ?
Allez, je me lance. Vas-y. Alors, qui je suis ? Je suis déjà une femme de 30 ans marseillaise. On parlait tout à l'heure de quartier. Donc, moi, j'ai grandi en plein centre-ville, à la Plaine. Donc, voilà, je connais bien cette ville et c'est un endroit où je me sens bien. J'ai toujours voulu m'investir. Donc j'ai travaillé toute ma vie ici, quasiment. Moi, j'ai plutôt un parcours dans le milieu associatif, dans le milieu social. J'ai travaillé pendant 5 ans avant dans une association du mouvement Emmaüs. Donc, j'étais juste au-dessus de vous, dans les bureaux d'Emmaüs Connect. Donc, je connais bien la friche aussi. Et comment je suis arrivée aussi à travailler à Noailles avec Chloé sur ce projet. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis au Bouillon en tant que coordinatrice de projet. Et en fait, j'ai super accroché avec cette association. J'ai trouvé ça trop chouette d'avoir un côté social, solidaire, du lien, de la cuisine. Plein de choses qui se mélangent dans cette grosse marmite. Et du coup, c'est vraiment... voilà, mon quotidien maintenant, c'est d'être à Noailles tous les jours et de parler de cuisine tout le temps et de faire de la cuisine et de rencontrer des gens et de manger plein de choses aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette.
Parce que tu travailles...
Ouais.
depuis combien de temps?
Depuis un peu plus d'un an.
Ouais. T'étais passionnée par la cuisine aussi ou pas du tout?
Ouais, carrément. À titre personnel, moi, j'adore faire à manger, tester de nouvelles recettes, faire à manger pour ma famille, pour mes proches... Je fais les repas de Noël toute seule dans des grosses journées de travail. Donc j'aime bien ça. Et goûter de nouvelles choses.
Tout ça, bah là, encore plus, non, du coup.
Ouais, voilà. Bon, j'ai découvert tellement de nouvelles recettes là. En un an, c'est fou, quoi.
Trop bien.
Et toi, Chloé, du coup? Eh bien, moi, j'ai un parcours. En fait, je suis un peu née dans la restauration. Mon père, il était traiteur événementiel. Donc, dès toute petite, moi, je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs et puis j'épluchais des patates. Et puis, c'était un jeu. J'ai beaucoup appris sur la cuisine, la restauration. J'ai pu passer dans plein de métiers différents. Et à côté de ça, j'ai fait des études dans tout ce qui était économie sociale et solidaire. Et c'est là où j'ai compris le concept de tiers-lieu. Et ça m'a parlé directement. Je suis partie, après mes études, faire un premier tour des tiers-lieux. Je suis arrivée dans mon premier tiers-lieu. Ça a super bien matché. Je suis restée un an. C'était dans le Var. Et après ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je finisse ce tour des tiers-lieux. Donc, je suis repartie avec mon camping-car pendant 8 mois, un an. Et un jour, j'ai lu l'annonce du Bouillon de Noailles qui cherchait une directrice pour la cuisine de l'Arc. Et ça a été le coup de foudre direct.
C'était une prédilection Marseille ou pas du tout?
Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'installer à Marseille. J'avais été dans le sud, dans le Var, à 30 minutes de Toulon. Et ça ne me correspondait pas du tout. Moi, j'étais allée plusieurs fois à Marseille. Il y avait un truc qui m'attirait dans cette ville, je le savais. Et quand j'ai vu l'offre, c'était juste toutes les étoiles qui s'alignaient, quoi.
Souvent, c'est comme ça.
Oh, mais oui, ça allait tellement vite. C'était trop bien.
Et du coup, aujourd'hui, donc, vous êtes réunis sur ce projet-là, donc la cuisine de l'Arc. Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne le connaissent pas? Tout à l'heure, j'ai parlé du bouillon parisien, du bouchon lyonnais. C'était un peu votre envie de créer un mélange entre tout ça. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans l'esprit justement de ce lieu?
La cuisine de l'Arc, c'est plein de choses différentes. C'est un restaurant coopératif. Donc, si on veut parler restaurant, ça veut dire qu'on peut manger bien pour un prix qui est assez honnête. Mais c'est aussi un restaurant avec une envie de solidarité, avec des offres pour des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens. On a des bons plans qui sont à moins de 10 euros. Ça veut dire qu'on peut venir manger au resto pour moins de 10 euros. C'est aussi un tiers-lieu. Donc ça, peut-être que je te laisse la parole là-dessus.
L'idée, ouais, c'est que ce ne soit pas juste un restaurant, mais c'est qu'on puisse y faire plein de choses selon les activités qu'on aime faire ou selon notre profil et que ce soit un lieu qui s'adapte selon les jours aux personnes qui passent, aux personnes du quartier. Et du coup, alors moi le terme tiers-lieu, je le trouve un peu énorme parce qu'on n'est pas non plus sur un lieu avec une grande superficie, mais c'est plutôt pour dire que c'est un lieu hybride. Donc des fois c'est un restaurant, des fois c'est un lieu où on fait des ateliers manuels et créatifs, des fois on va venir plutôt pour une exposition, un vernissage. Demain c'est un atelier de doublage dans le cadre d'un festival de films palestiniens. Après-demain c'est une scène ouverte où on peut venir faire de la poésie, de la danse, chanter et manger une soupe en même temps. Enfin, c'est plutôt pour se dire que c'est un lieu où il se passe plein de choses.
C'est un lieu de vie.
Un lieu de vie. Et c'est aussi, on a envie de faire ça, pour l'instant on l'a pas encore vraiment lancé, mais un lieu où on peut juste des fois se poser parce qu'on a envie de boire un café à prix libre ou même gratuitement, on a envie de lire un livre, on a envie de lire un journal, mais on sait pas trop où aller. et que ce soit pas forcément toujours marchand ni un truc cadré où il faut s'inscrire, mais juste un endroit où se poser à Noël, qui est un quartier où il n'y a pas forcément de parc ou de jardin, ou enfin c'est soit des cafés, des restaurants ou des commerces, donc un lieu de vie, un lieu d'activité, un lieu vivant, et donc on peut dire un tiers lieu aussi, quoi.
Oui, tu parles de Noailles. En préparant l'émission, on avait envie avec Marion aussi de parler de ce quartier, le ventre de Marseille, comme on l'appelle. C'est un quartier populaire, c'est un lieu qui est chargé en histoire. C'est pas rien d'ouvrir un lieu aussi dans ce quartier. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire un petit peu ? Toi, Chloé, tu as un regard un peu neuf. Ouais. Toi, Liliane, un peu plus ancien. Et du coup, les regards croisés sur le quartier, ça peut être intéressant pour nous et les auditeurs.
Alors, pour moi, Noailles, c'est avant tout, en tant qu'habitant pas du quartier, mais habitant de la ville, c'est un endroit où on vient manger. C'est un endroit où il y a plein de restos, plein de cultures gastronomiques différentes. Donc, c'est vraiment un lieu où on vient manger, c'est un lieu où on vient faire ses courses et où on peut trouver plein de choses intéressantes qui ne sont pas dans les supermarchés un peu plus classiques ou les marchés classiques. Donc c'est vraiment un quartier autour de la nourriture et de la bouffe. Après, c'est un quartier assez chargé avec tout ce qui s'est passé à partir des effondrements de 2018 et toutes les personnes qui ont été délogées.
Rue d'Aubagne.
Oui, rue d'Aubagne. Et du coup, tous les dégâts en fait que ça a engendré dans la vie de centaines de personnes. Donc c'est un quartier qu'on a traversé plein de fois pour des marches blanches, des manifestations, pour le carnaval de la planète Noailles. Donc c'est un quartier très politique et il y a encore plein de tensions aujourd'hui autour de ce quartier. Et aujourd'hui, c'est aussi un quartier super touristique, avec plein de nouveaux endroits, de restaurants un peu branchés, de bars à vinyle et de choses qui s'y passent. Donc c'est un quartier qui va un peu dans tous les sens et qui avance un peu à deux vitesses entre une partie toute délabrée qui est en train d'être retapée, qui est complètement vidée avec plein d'immeubles en péril. Un quartier très branché où ça sort beaucoup le soir, d'autres endroits beaucoup plus calmes où c'est plutôt familial voilà, c'est un quartier vraiment particulier et en même temps c'est un quartier très urbain, je trouve. Il y a beaucoup d'immeubles, on voit pas beaucoup le ciel quand on travaille à Noailles, on voit pas beaucoup de verdure à part dans la rue de l'Arc. Donc c'est assez intense quand on sort de
ça bouillonne,
ouais, d'une journée à Noailles, et après on a... Voilà, quand j'arrive à la plaine, c'est d'un coup je vois le ciel, je vois où il s'est passé des trucs aujourd'hui. Mais non, du coup, c'est un quartier très prenant et aussi très vivant parce qu'il y a, enfin, comme moi je le vis d'un point de vue associatif, il y a aussi énormément d'assos, de collectifs et moi ça m'a surprise quand j'ai travaillé de me dire, c'est un tout petit. En fait, quand même, Noël, on parle d'une quinzaine de rues et en fait, il se passe plein de choses à plein de coins de rue, mais c'est assez particulier.
Ouais, moi je te rejoins sur plein de choses. Noailles, j'ai l'impression, enfin moi quand je suis arrivée, c'était un quartier avec plein d'odeurs de bouffe partout, avec beaucoup de couleurs et en même temps des rues qui sont très étroites, très bétonnées, des grands immeubles, on voit pas le ciel, t'as raison, on voit pas le soleil, on sait pas s'il fait beau ou pas. Et y a un peu une autre vie, tu croises des gens. Quand j'étais venue faire un entretien, j'ai croisé des gens à 8h du mat qui étaient en train de planter des gros pots de fleurs rue de l'Arc. Et t'as des fleurs comme ça qui poussent un peu partout. Et du coup, c'est un quartier qui vit énormément. C'est vrai que j'ai été très impressionnée par le nombre d'associations qui se connaissent dans Noailles et de choses qui sont faites dans ce petit quartier. Voilà.
J'ai faim en fait.
Moi aussi.
Donnez faim les filles, j'imagine. Enfin, je connais ce quartier, mais là, ces effluves de nourriture, je les sens maintenant. Voilà. Bref, ceci étant dit, moi, c'est marrant parce que je fais une petite aparté. Il y a 2 ans, j'avais postulé, c'est ça, Chloé, je te l'avais dit au téléphone, j'avais postulé au Bouillon de Noailles justement pour être encadrant culinaire et parce que j'avais trouvé le projet génial. Et j'étais allée dans les locaux du Bouillon, mais la cuisine de l'Arc n'était pas encore ouverte à ce moment-là. Et on peut aussi parler de ça parce que en fait, avant qu'il y ait la cuisine de l'Arc, il y avait aussi tous ces projets encadrants autour de la cuisine, mais pas que. Peut-être que vous...
Oui, c'est l'association Le Bouillon qui porte la cuisine de l'Arc.
Oui, carrément, je peux revenir dessus. Bah, du coup, il faut savoir déjà que l'asso, quand elle s'est créée, donc c'était il y a 6 ans, c'était sortie de confinement. Et la première idée, en fait, c'était donc 4 personnes qui s'étaient connues en habitant à Noailles. Donc certaines y habitent encore, d'autres étaient et avaient changé de quartier ou de ville. Et du coup, elles ont voulu créer cette association pour ouvrir un resto. Donc c'était la première idée, c'était la cuisine de l'Arc. Mais en fait, il s'est passé plein d'autres choses et c'était pas le meilleur moment. Genre, vraiment, ils ont dit on va ouvrir un resto, il y a eu le confinement. Bon, on va peut-être revoir un peu, voilà. Et du coup, le confinement se termine et ils se sont dit bon, bah, on va commencer par se mettre dans la rue de l'Arc et faire un atelier de cuisine et faire un repas de quartier et voir si ça prend. Et ça a bien marché directement. Il y a eu plein de gens qui sont venus et c'était, je pense, une vraie envie de se retrouver après un moment, un moment de confinement un peu difficile pour certaines personnes. Et du coup, à partir de là, ils se sont dit bon, en fait, il y a un truc à faire autour de cuisiner ensemble avant de se lancer dans le resto. Et donc voilà, moi, j'étais pas là depuis le début, mais j'ai entendu les histoires au fur et à mesure des mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est plein de rencontres un peu différentes avec des personnes, des structures, et qui ont donné lieu aujourd'hui à tous les projets, tous les lieux de l'asso. Et avec, en fond, toujours cette idée d'ouvrir le resto. Et donc, ça a pris, du coup, 6 ans. Mais donc, si je devrais résumer donc, le bouillon de Noailles, qui est... On a compris qu'il s'est diversifié dans plein de choses. C'est, pour moi, c'est une asso qui utilise la cuisine comme un prétexte. Parce que, tu le disais dans ton introduction, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui permet aussi d'ouvrir sur plein de champs. Et en fait, à travers la cuisine, on adresse des questions de comment recréer du lien social dans des quartiers, entre des personnes, comment créer de la rencontre entre des personnes qui se connaissent pas via la cuisine. Et aussi comment on permet à des personnes qui sont en difficulté de retrouver un emploi, parce que nous, on est sur ce champ de l'insertion professionnelle, donc d'accueillir dans l'équipe des personnes qui ont eu des parcours de vie un peu compliqués, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas les mêmes opportunités d'emploi, et donc comment elles vont, via ce champ de la cuisine, pouvoir se stabiliser. Et du coup, dans l'asso aujourd'hui, on a, si je parle pas de la cuisine de l'Arc, on a 3 ateliers. On a une cuisine à Saint-Mauron qui s'appelle la cuisine du 101, qu'on a ouvert avec un bailleur social, et qui est une cuisine pour des gens qui n'ont pas de cuisine. Donc c'est des personnes qui vont être à la rue ou en hébergement d'urgence ou en hôtel et qui ont besoin tous les jours de se faire à manger. L'idée, c'est qu'elles aient un endroit pour choisir ce qu'elles ont envie de manger, se préparer ce qu'elles ont envie de manger, et du coup de retrouver un peu aussi de dignité et pas toujours manger ce qu'on nous distribue dans des maraudes ou autres. Enfin, ce qui est super, ça existe, mais genre, du coup là, c'est l'idée, c'est de donner vraiment une place primordiale aux familles pour qu'elles puissent se faire manger, etc. Ensuite, on a l'espace des enfants autonomes qui est rue d'Aubagne, justement en face des immeubles qui se sont effondrés. Et donc ça, c'est un lieu qui a 3 ans où on va proposer chaque année à des enfants qui viennent tous du quartier puisqu'ils sont tous à la même école qui est l'école Chabanon. Donc chaque année, on a 20aine d'enfants, on va leur proposer un accompagnement sur toute l'année scolaire où ils vont venir tous les jours après l'école, les mercredis, samedis, les vacances. Et en fait, ça devient un peu leur seconde maison. Donc il y a une cuisine, une bibliothèque, un petit coin jeu, un petit coin sieste. Et en fait, c'est une maison où ils vont pouvoir développer leur autonomie, donc développer des compétences. Donc ça peut être apprendre la langue pour certains parce qu'ils viennent d'arriver. Ça peut être apprendre à faire groupe parce qu'ils ont un peu du mal à l'école avec le collectif. Ça va être apprendre à cuisiner, à faire les courses au marché, apprendre à lire, apprendre à se repérer dans la ville, se balader. Et après aussi apprendre des choses plutôt manuelles, faire des... Ils ont fait toute leur vaisselle avec des ateliers céramiques et une céramiste.
C'est avec les parents, enfin c'est encadré.
Alors non, on a des animatrices jeunesse qui sont dans le lieu. Donc il n'y a pas les parents, mais on ouvre aussi le lieu à des parents sur certains moments pour justement qu'ils puissent aussi découvrir l'espace.
Et juste, ils ont quel âge ?
Ils ont entre 6 et 10 ans. Mais il y a aussi des parents qui sont part du lieu. Par exemple, on a une maman cette année qui fait des cours d'arabe. Et Chloé, elle y a participé. Donc, tu pourras nous raconter. Mais, du coup, qui propose des cours d'arabe à prix libre parce qu'elle a envie, du coup, d'avoir aussi un lieu où elle peut montrer ce qu'elle sait faire et transmettre. Donc, c'est un lieu pour enfants, mais ouvert aux adultes. Mmh. Et donc, le dernier lieu, c'est le Petit Bouillon, qui est à vraiment quelques pas de la cuisine de l'Arc. Et donc ça, c'est un lieu qu'on a ouvert il y a 2 ans. Justement de ces premières idées de faire des ateliers de cuisine. En fait, on a fait pendant plusieurs années un peu partout. Puis on s'est dit, bon, on va se poser dans une cuisine. Donc le petit bouillon, c'est globalement une cuisine de 50 mètres carrés qui ressemble à une cuisine d'une maison avec tout en démultiplié. Il y a 15 planches à découper, 15 économes, donc 15 casseroles.
Auberge espagnole, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire des ateliers de cuisine de manière régulière. Donc on a par exemple des ateliers vraiment qu'on appelle cuisine et lien social où on a un chef d'un jour qui va proposer une recette et des gens qui vont cuisiner ensemble et partager un repas. On peut avoir des ateliers un peu plus axés nutrition, comment on améliore son alimentation quand on a un petit budget et comment on améliore sa santé via ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre assiette. On a des moments plus des petits déjeuners brunch solidaires où on prépare tous ensemble des recettes salées, des recettes sucrées, une grande soupe et puis là, ça met de la musique, ça danse, ça fait des jeux. Enfin, il y a un peu des moments différents mais c'est toujours la cuisine au milieu de tout ça.
Et en quoi justement cuisiner peut-être est un acte d'écoute parce qu'on est dans cette ligne un peu éditoriale sur l'antenne, Chloé.
Excuse-moi, je te coupe parce que quand même dans j'imagine dans toi en plus tout ce tour des tiers-lieux écolieux que tu as pu rencontrer, il y a quand même un gros attrait avec l'alimentation, la cuisine qui est quand même un peu au centre. Comment voilà cette place, elle est quand même assez centrale.
Bah oui, complètement. Je trouve que l'alimentation, c'est vraiment un moment de partage. Et donc, qui dit partage, dit écoute. J'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai pu cuisiner. Et donc, dans ces moments-là, ils montrent leur créativité. Tu partages avec eux. Tu t'inspires de ce qu'ils font. Tu donnes un peu chacun des idées de recettes, etc. Ouais, c'est... Enfin, l'écoute et la cuisine, pour moi, ça a un lien énorme, quoi.
Et d'ailleurs, vous travaillez avec des producteurs locaux, en circuit court, avec des agriculteurs sur Marseille.
Oui, on fait donc, on est, enfin nos producteurs du coup, c'est surtout la Cantina, qui est une association. On essaye d'avoir au maximum des produits qui sont bio ou raisonnés. Et on travaille sur notre carte, notamment grâce aux coopérateurs, sur le côté local. Alors, on n'est pas parfait pour l'instant, hein, mais on fait au maximum. Et puis, on va s'améliorer au fur et à mesure pour être tout à fait de saison, tout à fait local, etc.
Et je me demandais, parce que du coup, j'ai vu le menu. La meuf à la dalle, j'ai la dalle. en regardant le menu, je me suis dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez quelles provisions vous allez avoir pour concocter un menu? Est-ce que c'est un peu au jour le jour? Comment ça se passe?
Il y a 2 choses différentes. Le menu, il va changer chaque semaine, à peu près, avec des choses qui ne changent pas. On aura toujours la saucisse purée de lard, la mousse au chocolat, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en général, notre chef Mathias, il appelle un peu ses producteurs, il voit ce qu'il a, ce qui se passe, et il fait sa carte le vendredi pour le lundi. Et si, au fur et à mesure de la semaine, il n'y a plus assez, ben on s'est changé quelque chose. Il y a marqué sur notre carte que selon les arrivages, ça peut changer.
Ok, je vous appelle.
Mais appel réserve pour demain.
De ouf. Mais me chauffe pas trop, je vais le faire.
C'est bien, j'ai encore des tables de libre pour l'instant.
Et oui, alors moi, j'avais, on a plein de questions. Donc c'est vrai que c'est... c'est bon, donc tout ça en fait, est-ce que justement le fait que ça ait ouvert, donc ça a ouvert il y a pas longtemps,
il y a
en fait
an, final...
non il y a 2 mois,
t'as
non
dit 2025 tout à l'heure, c'est 2026.
Oui, tout à fait.
C'est en fait, on a ouvert, on est dans la 4e semaine de la cuisine de l'Arc. On est des
alors
tout jeunes, tout
les
début.
Filles ouais.
Comment ce vous démarrage allez on est encore debout
déjà et c'est pas mal à cette heure là franchement. Non, c'est super. Tu veux dire de plus que...
Mais ouais, donc ça marche, quoi.
Mais ça marche super, je pouvais pas rêver mieux. La semaine dernière, on était complet.
Il y a combien de couverts?
On a entre 30 et 35 couverts. On a fait 42 en poussant les murs. Mais on pousse les murs. Et bientôt, on ouvrira en bas aussi, potentiellement.
Parce que comment on peut imaginer ce lieu? Nous, avec Marion, on n'est pas encore venus.
J'ai un peu vu les photos, je me suis spoilé un peu. Mais...
pour qu'on puisse se projeter avec les auditeurs.
Demande à Clos.
Mais oui, venez. C'est une ambiance qui est chaleureuse, je dirais, conviviale. On a des tables plutôt en bois de 2-4 personnes. On a une grande table au milieu à 8 personnes. Il faut imaginer une cuisine ouverte. Donc en fait, t'arrives et en face, tu vois ce qui se passe en cuisine. T'as un énorme comptoir en bois et le chef qui dépose les plats. Et puis derrière, Yacoub qui est en train de préparer les desserts. Et puis moi, tu me vois aller chercher, faire mes allers-retours avec des plateaux. Et tu descends, tu peux descendre. Donc en haut, c'est la salle de restaurant. Et tu peux descendre et là, t'as des voûtes avec un peu de pierre. Et ça va être notre salle où on va faire un peu la programmation, où il s'est passé déjà quelques ateliers, il va s'en passer d'autres. On a fait des concerts un peu là-bas pour l'inauguration. Mmh. On a fait des karaokés. Voilà. Et donc c'est un lieu qui se veut être chaleureux, qui est dans les couleurs pas mal rouges. Il y a un peu de rouge partout. Les coopérateurs voulaient mettre du rouge, donc on a trouvé du rouge. Et voilà.
Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que la déco, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de temps de réflexion, de réunion avec les coopérateurs, coopératrices. Ça a commencé par le logo, puis le carrelage, puis la couleur. Enfin, c'était plein de réunions et après faire le lien aussi avec les entreprises avec qui on a travaillé. Mais c'est pas du tout terminé en fait. On a encore plein de choses à faire et on attend aussi un peu de voir. En fait, quelles sont les envies d'utilisation de ce lieu avant de tout verrouiller. Donc, par exemple, nous on pense à une bibliothèque, mais est-ce qu'en fait il y a vraiment la nécessité ou est-ce qu'on la voit? Est-ce que c'est une bibliothèque pour les enfants, pour les adultes, pour les deux? Pareil pour le coin ludothèque. Est-ce qu'on fait un coin pour les enfants s'ils veulent jouer pendant que les parents ils mangent tranquillement? Enfin, il y a plein de choses qu'on a un peu en tête, mais on attend aussi de voir un peu selon ce que les gens nous demandent et qu'on cherche ça, quoi.
Parce que tu viens de parler des coopérateurs, coopératrices, ça serait bien qu'on en parle parce que c'est pas commun. Et puis aussi du rôle des habitants que vous sollicitez certainement dans toute cette réflexion de la programmation et des besoins, effectivement, parce que c'est eux qui pourront vous expliquer ce qu'ils attendent aussi.
Tout à l'heure, tu disais donc le bouillon est à l'initiative du projet, mais en fait, on le porte plus du tout seul. Le projet, on a juste lancé et maintenant, ça nous dépasse. Mais en fait, l'année dernière, non, même avant, en 2024, il y a des statuts qui ont été déposés par les premiers coopérateurs, coopératrices pour créer du coup une nouvelle structure. Donc sous forme de SIC. Alors là, il ne faut pas me demander l'acronyme, parce que je vous lis à chaque fois. Mais du coup, ce qui veut dire qu'en fait, dans cette coopérative, ça réunit des particuliers, qui sont des gens qui habitent le quartier ou qui le fréquentent, des salariés, donc les premiers salariés du resto, donc Chloé et Mathias, et Yacoub, j'espère aussi, bientôt, des structures, donc qui peuvent être des associations. Donc on a des assos du quartier comme la ressourcerie qui est rue d'Aubagne, Destination Famille qui est le centre social du quartier, HAS qui est une structure d'hébergement pour des femmes. Donc il y a pas mal d'assos comme ça qui ont rejoint la coopérative. Il y a le bouillon, bien sûr, parce que du coup on est à l'initiative du projet, et il y a aussi une place pour des institutions. Si un jour elle le souhaite, on a un bailleur social, on a aussi une fondation qui a rejoint le projet. Donc toutes ces personnes-là, en fait, elles ont, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, participé à toutes les réflexions sur le projet. Donc il y a la déco, mais il y a eu la communication, il y a eu la carte, l'approvisionnement, le recrutement, enfin il y a plein de choses, quoi. Le suivi des travaux. Et du coup, aujourd'hui, on continue à développer cette coopérative, donc toujours à accueillir des personnes donc, qui sont... Enfin, plus qu'apporteuses d'idées, elles ont aussi apporté du capital, parce que des personnes qui ont pris des parts sociales pour lancer le projet. Du coup, on continue à en accueillir. Donc, chaque personne qui veut, elle peut en fait prendre des parts sociales et rejoindre la coopérative.
Et un auditeur qui nous écoute, qui aimerait, c'est pour qu'on puisse s'imaginer, ça représente combien?
Alors, pour des particuliers, une part sociale, c'est 10 euros minimum. Et pour une structure, c'est donc une asso, un bailleur ou autre, c'est 50 euros minimum, donc 5 parts. Et du coup, après, l'idée, c'est de maintenant qu'on dépasse le stade de la réflexion et qu'elle puisse vraiment s'emparer du lieu avec des choses un peu plus opérationnelles. Donc, par exemple, tous les événements là qu'on va proposer, c'est aussi des coopérateurs qui les animent, qui les proposent. Donc, que ce soit la soirée scène ouverte ou une activité d'une asso. Enfin, et toutes les personnes qui vont occuper ce lieu, en fait, elles sont aussi membres à part entière de la coopérative.
INSIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif.
Merci.
Super. Merci. On est à la friche qui est INSIC aussi, donc voilà.
Mais du coup, ce que j'entends, donc, cette salle qui est en bas, est-ce que c'est, par exemple, est-ce que c'est la salle où justement il y a eu l'événement pour une après-midi tricot?
Exactement. Ouais. Crochet.
Par exemple, crochet, excusez-moi. Et du coup, par exemple, bon, voilà, moi je suis quelqu'un, j'arrive, j'ai envie d'organiser un événement, une après-midi de 2-3 heures. Comment un individu lambda peut arriver et réserver? Est-ce qu'il y a des critères?
Alors, oui et non. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut que ça soit un lieu ouvert, avec une programmation ouverte et que les gens s'emparent du projet. Donc, première étape pour ça, une coopérative. Et deuxième étape, une programmation plus ou moins libre. Donc, l'idée, c'est de faire un petit questionnaire qu'on a sur nos réseaux, notamment sur notre Instagram, que tu peux remplir en disant « bah moi, j'ai super envie de faire un atelier chant à la cuisine de l'Arc le mardi 17 mars ». Dans ces cas-là, Lilan, elle lit un peu tout ça, elle voit avec les coopérateurs et les coopératrices si c'est bien dans la ligne directrice de la cuisine de l'Arc. Et puis si c'est ouvert sur le le quartier, ouvert au public en fait. Et ben dans ces cas-là, il y a pas de souci, bienvenue, fais ton atelier chant.
Ok. Et du coup, vous êtes ouvert donc du mardi au dimanche ? Non, au samedi.
Alors,
presque. Le restaurant, il est ouvert du lundi midi au vendredi midi.
D'accord.
Et après, le lieu est ouvert avec beaucoup plus d'amplitude. S'il y a des ateliers, il sera ouvert. Le but, c'est que les ateliers puissent être aussi répétitifs pour certains, qu'on ait assez de confiance les uns envers les autres pour vous laisser les clés du lieu et qu'ils vivent sans qu'il y ait Lilan ou moi.
Et en préparant l'émission, vous disiez qu'il y a des événements gratuits, d'autres qui sont donc ouverts au quartier, d'autres qui sont payants. Comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre ces événements privés, ces événements solidaires ?
Alors, je pense que déjà on démarre tout juste, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas encore fini de cadrer. Donc là, on fait un peu selon ce qui vient à nous, ce que les gens ont envie de faire. Mais je pense que d'ici 6 mois, si on se reparle, on aura plus en tête ce qu'on peut faire ou non, les prix, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un maximum d'ateliers, d'événements, donc soit sociaux, soit culturels, qui sont ouverts, gratuits, des choses simples, sans inscription. Enfin, ça, c'est vraiment le truc le plus simple pour que les gens viennent sans trop se prendre la tête. Après, il y a forcément des choses qui vont se passer avec des jauges. Par exemple, un atelier où on doit prévoir du matériel, etc. Donc ça, c'est plutôt sur inscription. Selon qui le propose, quel asso, comment elle a besoin de se financer, il peut y avoir un prix libre ou un tarif plus ou moins bas. Et de temps en temps, il peut y avoir des structures qui réservent le lieu pour des événements fermés. Donc ça, je ne sais pas si on le mettra sur la programmation ou non, mais par exemple, la semaine dernière, on a eu une asso du quartier qui a fait un studio photo avec des enfants dans le cadre d'un projet. Donc ils ont utilisé la cave, ils ont fait leur décor, etc. Et donc ça, c'est pas forcément ouvert à tout le monde parce que ça concerne des enfants qui ont déjà été identifiés, inscrits par leurs parents, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment des activités. Donc je dirais au maximum faire des choses ouvertes et qu'il y ait toujours quelque chose à y faire. Mais de temps en temps, il y aura des réservations un peu privées, quoi.
Et les personnes qui travaillent sur le lieu, donc vous êtes quand même un lieu aussi d'insertion professionnelle. Comment ces personnes viennent à vous et combien de temps elles restent, par exemple, dans vos locaux ou dans vos lieux? Et est-ce que justement il y a un accompagnement qui suit ou est-ce que c'est juste un tremplin?
Un peu de tout ça. Alors, les personnes, elles sont. Donc, je parle du côté du groupe Bouillon. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on est donc chantier d'insertion. Donc, c'est un agrément. Et l'idée, c'est qu'elles arrivent déjà juste pour se remettre un peu dans un cadre de travail. Donc, la plupart, elles n'ont pas forcément envie de après continuer dans des métiers en lien avec la cuisine. Elles peuvent avoir plein d'envies, d'idées différentes. Mais c'est qu'elles reviennent, qu'elles trouvent un cadre, une stabilité un peu économique et aussi qu'elles sachent ce qu'elles ont envie de faire, donc construire un projet professionnel. Elles viennent à nous par des prescripteurs, donc c'est assez cadré, c'est France Travail ou des structures un peu type mission locale ou Cap Emploi si on a pour des personnes en situation de handicap. Qui sont, voilà, je ne sais pas ces détails, mais elles sont orientées sur une plateforme. Nous, on doit recruter via cette plateforme. Donc, en fait, ça nous permet, nous, de savoir en fait, quelles sont les personnes qui ont besoin de ce type de contrat et de poste. Et une fois qu'elles sont au bouillon, chez nous, elles peuvent rester entre 6 mois jusqu'à 2 ans. Mais en moyenne, c'est plutôt un an et demi. Après, ça dépend encore des profils et des personnes. Mais du coup, une fois qu'elles arrivent, l'idée, c'est qu'elles... qu'elles aient aussi un accompagnement. Donc, on a une personne chez nous qui est accompagnateur socio-professionnel. Et du coup, régulièrement, cette personne, elle a des entretiens avec chaque salarié en insertion pour voir un peu quelles sont les problématiques que la personne peut rencontrer. Ça peut être des questions déjà de logement, c'est assez récurrent. des problèmes de santé ou alors des barrières de la langue qui l'empêchent de passer telle ou telle formation. Donc c'est assez varié et du coup ça amène des personnes, c'est assez chouette, de plein d'horizons qui ont vécu plein de trucs différents et tout. Donc c'est, on a une équipe assez, assez mixte en termes d'âge, de profil et tout ça. Et après du coup l'idée c'est que aussi pendant leur temps de contrat chez nous, elles puissent faire des immersions dans d'autres lieux, elles puissent faire des formations complémentaires, que ce soit le permis ou à nouveau un truc de langue ou une, enfin voilà, de se préparer à un concours, etc. Et après, quand elles sortent du de l'accompagnement, l'objectif c'est qu'elles aient soit un contrat, soit enfin donc un autre emploi dans le domaine qui les intéresse, soit une formation. Okay. Et des fois ça fonctionne, des fois non, ça dépend vraiment voilà, des personnes.
Est-ce que par exemple le ou la chef de la cuisine de l'Arc, je comprends que c'est un homme, mais est-ce que par exemple il est passé par ce biais-là ou pas du tout ?
Pas du tout. Mathias, notre chef, il avait un restaurant pendant 7 ans, Boulevard Libération, qui s'appelait La Délicatesse. Donc lui, il sort des métiers de la cuisine. Je crois qu'il a fait un CAP cuisine, enfin en tout cas très structuré. Par contre, il va accompagner des personnes pour leur apprendre les métiers de la cuisine. Il a fait un peu de salle, donc il sera capable aussi de faire ça.
Ouais. Ouais, c'est intéressant. Lutte contre la précarité et pour la dignité. Tout à l'heure, tu en as parlé, Liliane.
Lila.
De cette dignité, je trouve que c'est important de la remettre au cœur aussi de ces projets qu'on a à l'antenne. Et c'est ça qui est, dans le contexte actuel, qui est aussi, je crois, nécessaire et tellement important. Quelle est la place justement de la dignité dans la manière d'accueillir ? Vous êtes un lieu qui accueille beaucoup. Quelle est la place de la dignité ?
Je trouve que juste de permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de venir manger au restaurant, c'est leur redonner un peu de dignité. C'est les servir, prendre soin d'eux, leur dire tu peux t'asseoir, je vais m'occuper de toi. Je vais te servir à manger, je vais te servir à boire, tu peux prendre du temps pour toi. Et ça, on le fait à la cuisine de l'Arc, grâce notamment au repas suspendu. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui remet de la dignité au centre.
Moi, je dirais que la casquette plus de ce qu'on fait au bouillon dans les ateliers, je trouve la question de la dignité, c'est plus valoriser ce que savent faire les personnes. Et en fait, il y a plein de gens qui sont trop contents de nous dire « Moi, j'ai trop envie de vous faire découvrir ces recettes, de vous faire découvrir ce que je sais faire à manger, de vous faire goûter comment je cuisine. » Et ça, c'est vraiment un truc hyper valorisant pour l'estime de soi. Et
ouais, ça répare, c'est un lieu qui répare aussi.
Parce qu'il est possible aussi, j'ai vu sur votre agenda que il est possible aussi de réserver la cuisine. Alors ça, vous pouvez aussi me dire selon quels critères, mais donc par exemple, voilà, quelqu'un qui a envie de faire 15 couverts, il peut réserver la cuisine de l'Arc pour un soir ou un midi, par exemple, faire ce qu'il a envie de faire. C'est possible ?
Bah complètement. L'idée, c'est qu'on ait un lieu ouvert, donc on n'utilise pas la cuisine, par exemple, les week-ends. Et on a eu un chef cuisinier, Zach, qui est venu pour le week-end de la Saint-Valentin faire un menu. Donc lui, il était chef au Groenland, il a fait des photos. Donc on a fait l'expo photo. Et pendant le week-end, il était là pour faire son menu en parallèle de son expo. Et il a investi la cuisine deux jours.
Est-ce que c'était menu Groenland ?
Menu Groenland, wow. À 5 plats, waouh !
Génial. Ouais, j'ai vu. Et donc, du coup, ça, par exemple, l'expo, elle peut durer plus ou moins dans le temps. Et lui, il est juste venu un week-end, c'est ça ?
Exactement. Okay. Et comme ça, il a inauguré son expo. Il s'est lancé un petit peu. Il a vu ce qu'il pouvait faire. Il a testé des recettes.
Et ça, c'est payant pour lui, par exemple ?
Ouais. Du coup, là, l'idée, c'est que on s'est dit, ouais, si c'est une activité plutôt lucrative, donc là, le repas éphémère était payant. Du coup, il y a une part qui est reversée à la cuisine de l'Arc, enfin, au bouillon qui gère la cuisine de l'Arc, pour les charges, en fait, l'utilisation de la cuisine, de tout le matériel. Parce qu'en fait, nous, on met une cuisine, pour le coup, toute neuve, professionnelle, toute équipée à dispo. Mmh. Mais du coup, ça a un coût. Après, on est encore en train de finaliser un peu notre modèle, mais en tout cas, ça a un coût. Et après, ça peut être des restos fermés, mais ça peut être aussi des personnes qui ont envie de faire du traiteur, de lancer leur activité, qui ont besoin d'un labo. Il y a aussi par exemple une asso qui lance une formation, qui nous a demandé pour la formation des jeunes qui vont passer le CAP s'ils peuvent venir utiliser la cuisine. Et après, ça peut être pour des restos éphémères, mais d'un autre type. Enfin, par exemple, un resto solidaire, un resto à prix libre, plus en mode cantine. Donc, c'est pas forcément... voilà.
On est assez ouvert en fait aux propositions.
Tout est possible.
Exactement. Voilà. Nous, on vient d'ouvrir, on voit ce qui est possible.
Pour l'instant, on est ouverte et naïve, on voit tout est possible.
Non, mais tant mieux.
On verra au fur et à mesure.
C'est ça.
Est-ce qu'en ces justement quelques semaines d'ouverture, vous avez vu un engouement déjà peut-être des habitants, habitantes ? Est-ce que vous avez vu un changement là dans l'atmosphère ?
Je crois que les voisins déjà ils sont contents que ça soit passé des travaux de resto.
Plus de marteau piqueur.
On a fait aussi avant l'ouverture des moments un peu apéro des voisins et leur faire goûter la carte tout ça en fin d'avant-première, donc ils étaient super contents et ça fait plaisir. Et puis du coup il y a plein de gens qui viennent, qui reviennent, des habitants vraiment de la rue ou de quelques pâtés de maison, donc c'est chouette.
Ils passent devant, ils nous disent bonjour. Pour l'instant tout le monde rentre pas encore.
Il y a encore des timides
ça fait coucou, c'est déjà ça quoi.
Mais je pense qu'il y a aussi des personnes à rassurer, enfin c'est pas non plus comme c'est pas non plus une cantine très peu chère, ça reste quand même un restaurant où il y a des plats à 13 euros, ce qui n'est pas non plus accessible pour tout le monde. Moi, il y a encore des voisins qui me disent du coup, ils sont où les prix solidaires ? Donc, il faut prendre le temps d'expliquer. En fait, on a des bons repas, donc des bons d'une valeur de 10 euros qui permettent d'avoir des réductions. Puis, il y a les bons plans qui sont à 7 ou 9 euros à la carte. Donc, il faut apprendre aussi à décrypter un peu le projet, décrypter le menu, expliquer ce côté ticket qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Et du coup, je pense que ça va se faire aussi petit à petit, quoi.
Et la cuisine de l'Arc se situe rue de l'Arc. Elle est quand même très différente, par exemple, de la rue d'Aubagne qui est très bétonisée. Comment vous pouvez nous la décrire pour ceux qui la connaissent pas encore ? Moi, je l'ai découverte il y a peu et en fait, elle est vraiment très jolie.
Oui, la rue de l'Arc, c'est une rue qui monte déjà beaucoup avec plein de petites, enfin non, de grosses plantes des deux côtés. En termes de largeur, il faut imaginer qu'une voiture passe rétro un peu baissée, quoi. Et puis, il y a des pavés, il y a des dessins partout, pas mal de tags, mais plutôt jolis.
Assez végétalisé.
Oui, très végétalisé.
Mais c'est vrai qu'il faut s'y aventurer.
Oui, on n'ose pas forcément. Et puis en fait, quand on va dedans, moi j'adore cette rue, quoi.
Mais c'est vrai qu'il faut passer le cap. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Moi, je passe jamais par cette rue parce que c'est un peu un coupe-gorge et c'est une rue qui a plutôt une mauvaise réputation. » C'est une rue qui a été aussi très festive. Donc, elle a vraiment... il y a la rue le jour et la rue la nuit. Donc, il faut avoir envie. Mais je trouve qu'une fois qu'on est dedans, c'est assez agréable. En fait, c'est assez paisible. C'est
calme s'il n'y a pas de voiture, en plus.
Oui.
Donc ça fait un petit îlot dans Noailles, mais c'est aussi une rue intense. Enfin, il s'y passe plein de choses plus ou moins agréables, donc il faut
venir.
Voilà. Mais après, elle est chouette. Il y a plein de voisins trop gentils.
Puis c'est une rue familiale aussi, c'est un quartier familial. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de...
Un peu plus haut, il y a pas mal d'enfants, donc rue d'Aubagne plutôt. Dans notre rue, moi, je vois pas tant d'enfants. Il y a un petit peu les enfants des familles qui sont là, mais sinon, un peu moins, je trouve.
Et vous, donc, c'est quand même éthiquement quelque chose, je trouve, pour moi, de travailler... en plus, tu as fait des études dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, éthiquement, c'est quelque chose aussi de travailler dans ce genre de lieu qui prône certaines valeurs, une certaine gouvernance aussi. Pour vous, pourquoi en fait c'est important de soutenir des projets comme celui-ci dans nos villes ? Oh là !
Ça mérite réflexion.
Bah oui.
Mais c'est vrai que c'est essentiel, parce que c'est des métiers qui donnent du sens aussi à nos existences. Lieux qui sont nécessaires aujourd'hui.
Ouais, tu dis important, moi j'ai envie de dire nécessaire, c'est que je m'imagine pas travailler dans un travail qui, pour moi, ne ferait pas sens. C'est-à-dire que là, j'aime ce que je fais au quotidien, j'aime faire du service, j'aime accompagner des gens à apprendre les métiers de la restauration, mais je sais que je fais ça dans un but qui m'anime, que j'aime bien. Parce que je crois dans le fait que ça peut être un lieu collectif, que les habitants et les habitantes de Noailles peuvent venir et s'emparer du lieu, et que ça peut être quelque chose qui va être vraiment collectif, quoi.
Et mais justement, pourquoi ce collectif est si important? Enfin, je me dis quand même, on est à une ère dans le monde où je trouve que remettre un peu l'humain et le collectif au centre, c'est important. Ça, c'est mon point de vue, mais voilà, c'est pas rien de travailler aussi dans un lieu comme ça qui prône ces valeurs-là.
Ah, parce que ça fait du bien.
Ouais, parce que, en fait, moi, ça me rassure et ça me fait du bien de rencontrer tous les jours des personnes assez différentes des personnes que je peux voir dans mon entourage proche. Et du coup, d'avoir ces espaces où on se rencontre, où il y a une diversité de personnes, je trouve que ça me fait du bien de se dire que voilà, ça, on n'est pas tous catégorisés, divisés, et qu'en fait, il y a encore des moments où on peut partager des choses et de manière très simple. Et je crois que moi ça me, quand on fait par exemple des grands repas à l'été où on est dans la rue de l'Arc avec une grande tablée de 100 personnes, ça me met un peu de baume, ça met du baume au cœur, tout le monde se réunisse, quoi.
Et de la force, ça donne une force de ouf de savoir que aujourd'hui, je sais pas, on a 80 coopérateurs et coopératrices qui sont derrière nous, certains qui s'investissent à fond, qui passent du temps parce qu'ils croient en un projet, qu'on est capable. Ça redonne de la puissance à l'humain, tu vois.
Mais c'est vrai que la joie, on en a besoin aussi. Et c'est des lieux comme ça aussi qui font vivre la joie. On peut la retrouver parce que la joie, parfois, elle disparaît un petit peu dans nos parcours de vie, mais c'est des lieux aussi qui réconfortent beaucoup.
C'est le but en tout cas.
Et pour s'imaginer un petit peu, c'est quoi votre journée type?
J'ai pas encore trouvé.
Celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, par exemple.
Aujourd'hui, je suis arrivée au resto en me disant, mince, la rue de l'Arc est fermée. Comment les clients vont faire pour venir? Ils sont quand même venus. Donc, j'ai passé ma matinée sur les devis parce qu'on fait aussi de l'événementiel, un peu de communication, la mise en place du service. Ensuite, le service qui était mouvementé mais super sympa.
Vous avez un service?
On a un service. En fait, les gens arrivent, si je peux remettre des tables, mais en général, entre midi et 4
heures. Il faut réserver, quoi, c'est ça. Ouais.
C'est mieux de réserver quand même.
Mais c'est bien un service, je trouve. On peut prendre le temps.
Oui, les gens prennent le temps. Ils sont servis rapidement. Mathias, on voit plutôt vite. Et du coup, ils prennent le temps.
On a envie de rester, de s'écouter.
Ah ouais.
Par exemple. On y revient.
Se regarder aussi, parce que tout ça prend du temps, ça nécessite du temps.
Complètement. Et puis après, cet après-midi, on a fait une petite réunion ensemble avec la régie de quartier, les coursiers solidaires, pour voir un peu ce qu'on pouvait faire ensemble. Voilà.
Ce qui est assez chouette, c'est que finalement, vous êtes une petite équipe salariée, mais en fait, une énorme équipe à gérer. C'est quand même pas évident non plus de demander aussi, par exemple, une personne qui veut réserver le lieu pour... Telle activité, de devoir aussi demander un peu l'accord de tout le monde. C'est quelque chose aussi d'organiser tout ça avec un peu les dires et les envies de chacun.
Et tu vois, on parle d'écoute, mais en fait, c'est on a avec Lilane, elle me disait tout à l'heure, on a des boulots tellement différents et des horaires tellement différents. Mathias, il est là de 7h à 14h, moi je suis là de 10h à 17h. Lilane, tout le monde est différent, ne serait-ce que pour... se comprendre et réussir à faire plein de phases de ce projet ensemble, c'est vraiment beaucoup d'écoute et de je me mets à la place de l'autre, je comprends ce qu'il veut, c'est quoi, c'est l'importance pour lui ou pour elle.
Ouais, je trouve que ça, on arrive pas mal à le faire, à dire, en fait, Mathias, je vais lui parler à telle heure de tel sujet, ça, ils sont fous, ça, c'est pas son parcours, ça, c'est plus machin. Enfin, de chacun trouver un peu les bonnes temporalités, les bonnes choses à se dire aussi pour pas s'épuiser, parce qu'on n'a pas besoin de tout faire tous ensemble. Et donc là, on commence un peu à trouver nos marques.
Et la place de l'écoute dans vos vies personnelles, vous arrivez à trouver, à garder l'équilibre vie pro, vie perso avec ces métiers intenses finalement?
Moi, je trouve que ça va. Ça marche plutôt bien. Ouais.
Ouais, c'est un grand défi, mais c'est pas ce projet, c'est ma vie en général.
Marseille aussi.
Marseille, oui.
Intense.
Ouais, c'est clair.
Ouais, non, je trouve que ça va, on n'est pas plein. C'est quand même chouette de pouvoir se lever le matin avec un travail qui nous plaît. Et puis, genre, il y a tellement de métiers beaucoup plus intenses psychologiquement ou physiquement. Donc, je pense qu'on est plutôt bien lotis. Ouais.
Et une équipe qui fait attention les uns aux autres et qui dit attends, t'inquiète, je vais le faire, t'as pas besoin. Ça, c'est quand même précieux.
Ouais, c'est important. Ouais. Même d'ailleurs, c'est même primordial, je dirais, dans, surtout dans ce genre de lieu, que l'équipe soit soudée et à l'écoute des uns des autres, surtout.
Complètement.
Est-ce que vous avez justement des temps de réunion tous ensemble? Vous avez... Non.
Plein.
Ah oui, on a trop de réunions. Oui, mais on a des temps de réunion pour parler de sujets clairs, précis. Et puis, ce que je trouve qui est bien aussi, c'est qu'on a des temps informels où, en fait, c'est plus le « ça va, toi, comment c'est quoi réellement ton besoin ?» et pas un truc cadré de se dire « ok, là, on parle financier, là, on parle communication. »
Pas à la responsable, mais à l'humain.
Voilà, derrière, ok, comment tu gères ça? Bah, t'as besoin de ça, ok.
On a aussi des temps dans l'asso, plutôt pour des personnes qui sont sur le terrain, donc au quotidien, et qui peuvent être confrontées à des situations un peu plus intenses. Des temps de supervision, du coup, avec un psychologue, il me semble. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir des moments juste pour décharger aussi tout ça. Quoi.
Et là, le printemps arrivant, est-ce que vous avez des événements de prévus? Est-ce que vous avez des envies, justement, ces grandes tablées dehors? Bon, peut-être que je précipite un peu les choses, mais j'ai hâte aussi. Mais voilà, est-ce qu'il y a ça prévu ou en...
Alors, la Cuisine de l'Arc, peut-être. Déjà, on va peut-être accueillir un gros événement pour l'Aïd, donc un grand repas. Mmh. On est en train de voir ça avec une asso. Du côté du Bouillon, on participe avec le Théâtre de la Cité à la Biennale des Écritures du Réel, qui est un festival qu'ils font tous les 2 ans. Et du coup, dans ce cadre-là, on fait 2 grands banquets pour 200 à 350 personnes. Donc, il y en a un qui aura lieu au Centre Social d'El Rio, dans le 15e arrondissement de Marseille, et un autre à la Seine Med, qui est l'ancien théâtre Tourski, dans le 3e. Et donc là, ça va être des super journées intenses à faire à manger avec les personnes qui fréquentent ces lieux et faire du coup des grands banquets. Donc, c'est un peu le début du printemps. Et après, on en aura plein d'autres au mois de juin, un peu tout le mois, et l'été aussi, j'espère. Et à la Cuisine de l'Arc, on va voir, ça se construit.
Ouais, tranquillement. On a le SIRA ensemble qui va se passer en mars déjà. Et puis au fur et à mesure, on va voir.
Et pour retrouver cette programmation sur Instagram, Cuisine de l'Arc.
Carrément, la Cuisine de l'Arc. Et puis on met tout au fur et à mesure.
Restez connectés, les amis.
Déjà, merci les filles. Ouais. C'était très clair. C'est vrai qu'en fait, quand on va sur le site internet, déjà le site est très bien. D'ailleurs, je me disais, c'est chouette. Du coup, il y a beaucoup en fait. On s'y retrouve plus forcément entre le Bouillon de Noailles et puis la Cuisine des Larcs, etc. Donc, c'est cool. Et puis, c'est vrai que les réseaux aussi sont bien alimentés. Donc, ça aide à bien différencier tout. De ce que je comprends, on peut aussi, si jamais, en allant là-bas, offrir un bon repas ou un café suspendu ou un repas suspendu. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais
On a de tout. On a les repas suspendus.
Tout est possible. En fait.
Tout est possible, comme partout à la Cuisine de l'Arc. On a les cafés suspendus et puis ça marche bien pour l'instant.
Ouais.
Donc on espère que ça va continuer.
Et continuez d'alimenter tout ça parce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et il y a aussi apparemment des travaux qui vont être un petit peu dans le quartier, mais ne paniquez pas. Il faut revenir à la cuisine parce que donc ça ne vous arrêtera pas.
Pas du tout. Et on est motivés.
Exactement.
On est là.
Exactement. Merci les filles déjà pour tout ça.
Merci.
Oui, merci à vous. Et on va, pour clôturer cette émission, écouter la chanson que vous avez choisie toutes les deux. Et Sidi en régie la lancera.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer laquelle et pourquoi?
Ouais, alors c'est une chanson que moi j'écoutais petite, que mes parents me faisaient écouter toute petite, et puis j'ai retrouvé à la Cuisine de l'Arc quand je suis arrivée tôt un matin et que Mathias était en train de préparer. Je me suis dit, mais je suis au bon endroit. Et Lilane avait pensé à la même chanson.
Ouais, exactement, on s'est dit ça.
Allez,
trop bien,
ouais,
c'est trop bien.
Et du coup, c'est Massilia sur Un dimanche au Good.
C'est le retour de l'été.
Bientôt. Belle écoute, très belle soirée et à très bientôt dans l'émission Ici on s'écoutait.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Desi la gamba, e me per tu vesti l'ulme dei rai. Dava la mano, desi la gamba, si ha spurito che non sai.
riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs. Tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs. Les papis, les mamies, les policiers, les voleurs. Veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs. Ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur. Le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter, là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port. Mais quand arrive l'été, l'appel des goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au goudes. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goudes. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon.
Du printemps au printemps, trop de mauvais délire. Résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chapel partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons-la tous les fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur.
On va passer un dimanche au goudes. En famille, que l'on soit.